Bonjour, c'est Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. C'est l'été et pour les amateurs de culture, il y a plusieurs façons de se mettre au frais. C'est soit d'aller au cinéma, soit d'aller dans un musée ou un centre d'art comme le Centre Pompidou-Metz. Et on profite de cette pause estive et on profite de cette pause estivale pour revenir sur l'exposition consacrée à François Morellet et qui a pour nom 100%. 100% parce que c'est aussi, cette année, le 100e anniversaire de la naissance de cet artiste français. Il s'agit de la plus grosse rétrospective jamais réalisée à ce jour. Elle couvre la période de 1941 à 2016, l'année du décès de François Morellet. François Morellet, pour le présenter brièvement, c'est le principal représentant français de l'abstraction géométrique et celui qui a le plus contribué à déstabiliser celle-ci, notamment avec son travail sur l'art optique. Cette rétrospective majeure explore donc, au fil des œuvres choisies, l'ambivalence entre la raison et la déraison, entre l'héritage de Piet Mondrian et l'héritage de Francis Picabia. Et c'est justement de cette manière-là que l'exposition a été construite. Deux parcours sont proposés. Si l'on part à droite, on commence de manière plutôt chronologique avec les débuts du corpus de François Morellet, donc la partie abstraction géométrique, le côté raison, pour petit à petit aller cheminer vers l'aspect déraisonnable de son travail et donc davantage l'art optique, et avec, au fil de ses œuvres, énormément d'humour et de distance vis-à-vis du monde de l'art. Particularité de cette exposition, c'est qu'après avoir vu les 140 œuvres présentées, il y en a une autre qui est située hors les murs. Il faut aller au bout de la galerie pour apercevoir l'installation sur un des murs d'un bâtiment de la SNCF. Michel Gauthier, conservateur au Centre Pompidou, au Musée National d'Art Moderne, et commissaire de cette exposition, a bien voulu répondre à nos questions.
Je suis Michel Gauthier, je suis conservateur au Musée National d'Art Moderne, au Centre Pompidou, Paris, et je suis le commissaire de l'exposition Morellet 100% au Centre Pompidou-Metz.
100%, c'est déjà une dualité. On fête les 100 ans de la naissance de François Morellet, qui est une manière aussi de lui rendre hommage, tout en offrant une rétrospective la plus importante jamais réalisée.
Oui, pour le centenaire de la naissance de Morellet, le moment nous semblait approprié d'organiser une grande rétrospective qui a 100 œuvres, donc qui est la plus grande jamais organisée et qui par ailleurs est le prélude à une série de manifestations qui vont se dérouler durant toute l'année sur l'ensemble du territoire français, qui associeront différentes structures du Louvre au château de Versailles en passant par le musée de Biot, les musées de Nantes ou d'Angers et des tas d'autres, j'en oublie. Et qui témoigne de la place qu'a pris François Morellet 10 ans après sa mort dans la conscience des contemporains, chez les professionnels de l'art en France. C'est vraiment une des figures majeures, une des 3-4 figures majeures de l'art des 60 dernières années.
Justement, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas François Morellet, est-ce que vous pouvez le décrire? Comment on pourrait le définir?
Alors, c'est ce à quoi s'emploie cette exposition. C'est une personnalité. Alors, l'homme était charmant, brillamment, intelligent, actif, effervescent, pétillant. Mais d'un point de vue de l'histoire de l'art, sa position est extrêmement singulière, puisqu'il aura été sans doute l'artiste qui aura radicalisé à l'extrême l'abstraction géométrique, cette abstraction géométrique qui était née dans la première moitié du XXe siècle et dont l'un des emblèmes les plus connus est et Mondrian, et qu'en même temps, il aura été l'un des plus grands disjoncteurs de cette abstraction géométrique. Donc c'est une situation singulière, paradoxale même, que celle de Morellet. C'est ce qui donne toute la saveur à son art. C'est ce qui aussi aura permis que cette exposition, qui se tient dans une galerie longue de plus de 80 mètres et large d'un peu moins de 15 mètres, de proposer deux parcours pour illustrer en quelque sorte cette dualité, avec un côté dédié à cette raison moderne, et puis un côté davantage créé à cette, à la déraison, à la critique, à l'humour, à l'ironie. Morellet nous avait lui-même donné la clé d'interprétation de son travail en disant dans les années 80 « Il faut que vous compreniez que je suis le fils monstrueux de Mondrian et de Picabia, donc le fils monstrueux de l'abstraction géométrique et d'une tendance néo-dadaïste à la déraison, à la fantaisie, à la contestation. »
Vous parliez de singularité, justement. C'est cette singularité qui pourrait même servir de trame, j'emploie le mot à bon escient, de trame à cette exposition, justement, qui est en deux parties, la dualité. Et cette singularité, on va la retrouver à plein de moments quand on traverse les deux parties de l'exposition.
Ben, j'espère effectivement que le sentiment de cette singularité, de cette place étonnante, paradoxale que François Morellet, tout en donnant en même temps le sentiment d'une cohérence parfaite, occupe dans l'histoire, que cette exposition en deux parties, avec chez Proust, il y a le côté de Guermantes et le côté de Mes Églises, elle a le côté de, ici dans cette exposition, il y a le côté de Mondrian, le côté de Picabia, le côté de la raison et le côté de la déraison. J'espère que cette structuration de l'exposition, avec d'un côté de l'exposition des simèses qui se croisent orthogonalement et de l'autre côté de l'exposition des simèses qui sont toutes placées en oblique, que cette dualité mise en scène, scénographiée, donnera à comprendre d'une part la dualité qui est au cœur de l'art de Morellet et donnera aussi à comprendre que cette dualité est constitutive d'une grande singularité.
Et pour autant, si on peut choisir le sens que l'on veut, on peut commencer par la déraison si on le souhaite et on part sur la gauche. Et si on commence sur la droite, par contre, on suit un ordre un peu chronologique de son parcours.
Alors les deux parcours sont chronologiques d'une certaine façon. Hein.
On démarre pas au même moment.
On démarre pas au même moment parce que la première partie du travail de Morellet devenu Morellet dans les années 50 est tout entière consacrée à la radicalisation, à la systématisation de l'abstraction géométrique, c'est-à-dire il s'agit de pousser à l'extrême les principes qui ont vu naître l'art concret, l'abstraction géométrique. Et ça n'est d'une certaine façon que dans les années 60, quand Morellet devient des protagonistes du courant OP, du courant optique, que se manifeste pour la première fois dans son travail comme tel cette forme de déraison, ici une déraison optique. Oui, tout à fait. Donc il y a des sautes dans la chronologie au gré de ce double parcours.
Et dans la partie des raisons, on voit des œuvres et des installations qui mêlent l'humour et l'ironie, chose à laquelle on ne pourrait pas s'attendre si on a commencé par la partie raison.
Bien sûr, de la même façon que si on commence par la partie raison, on sera étonné de voir cet esprit de système, de règles, qui est celui de Morellet. Oui, tout à fait, ce parcours-là est aussi destiné à créer une forme d'étonnement et d'étonnement dont on suppose qu'il va se résoudre, hein, qu'il va trouver une issue quand le public aura visité les deux côtés de l'exposition. Dans La recherche du temps perdu, c'est un des grands aspects de La recherche du temps perdu, Marcel, le narrateur, réussit à comprendre qu'on peut aller du côté de Mes Églises au côté de Guermantes. Mais là, dans cette exposition aussi, on va faire comprendre au public, on peut passer du côté de la déraison au côté de la raison, et qu'il faut même le faire pour avoir une image globale de Morellet dans toute sa singularité.
C'est-à-dire que plus on devient mature, plus c'est le côté déraisonnable qui transparaît.
Alors, oui, on peut dire que plus Morellet avançait dans sa carrière, plus le souhait de remettre en cause ce qu'il appelait la bienséance moderniste se manifeste dans son travail. Oui.
Il y a des œuvres qui n'ont pas été montrées, qui sont exposées ou rarement montrées. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors une exposition de cette ambition et de cette ampleur est l'occasion, bien sûr, de montrer certaines des grandes pièces qui sont, par exemple, dans la collection du Centre Pompidou et que le public, dont le public a appris à voir qu'ils étaient les jalons, des jalons marquants dans le développement de l'œuvre. Mais une exposition de cette ampleur permet aussi de montrer des œuvres qui avaient été soit jamais montrées, il y en a quelques-unes, au moins deux, soit des œuvres très rarement montrées, et là il y en a beaucoup plus. C'est aussi, je crois, que la grille, si j'ose dire, la trame de lecture qui est ici proposée, a permis aussi de redécouvrir des œuvres qui, d'une certaine façon, si on n'avait pas cette optique-là de lecture, auraient pu rester un peu dans l'ombre. Parce que très prosaïquement, quand j'ai commencé à travailler avec ce concept d'exposition, m'a semblé être le meilleur, à tort ou à raison, pour l'exposition. Bah, j'ai parcouru tout le corpus, toute l'œuvre de Morellet depuis les années 40 jusqu'à la date de sa mort de 2016, en me disant qu'est-ce que je peux ranger d'un côté et qu'est-ce que je peux ranger de l'autre. Si je n'avais pas eu cette grille de lecture, peut-être que je n'aurais pas choisi certaines œuvres.
Et ce qui est singulier aussi, c'est on arrive, on voit des œuvres de jeunesse, des œuvres de formation. Et vous m'avez fait remarquer dans la visite qu'on voit également cette dualité qui est déjà présente.
C'est absolument. Quand j'ai parcouru toute l'œuvre de Morellet depuis les débuts, ce qui m'a frappé, c'est de constater que, alors même qu'il est un tout jeune homme, qu'il est vraiment un peintre tout à fait débutant, on constatait qu'il y avait déjà cette dualité parce que la fin des années 40 est marquée chez Morellet par une tentation entre un réalisme géométrique et puis un goût pour les arts extra-occidentaux et une fantaisie proche peut-être de celle d'un groupe comme Cobra.
On pourrait parler des heures sur le détail de l'exposition, mais je laisse le visiteur le découvrir. En revanche, on peut juste dire qu'il y a une singularité supplémentaire encore à cette exposition, c'est qu'on est amené à regarder vers l'extérieur et il y a une œuvre hors mur.
Absolument. Morellet a reçu beaucoup de commandes durant sa vie pour des œuvres installées sur des architectures, soit à l'extérieur de musées, soit sur des architectures qui n'ont rien de muséal. Et il nous semblait que c'était peut-être un peu dommage qu'une exposition de cette ampleur ignore un aspect qui avait été un aspect essentiel de l'œuvre de Morellet. Donc effectivement, à l'extérieur, mais à proximité du musée, est visible depuis l'une des extrémités de l'exposition, on voit une œuvre de Morellet installée sur le mur du technicentre de la SNCF, et l'œuvre durera plus que la durée de l'exposition.
Et en clin d'œil, on pourrait même s'amuser à comprendre que derrière ce mur-là, au fond, il y a la cathédrale de Metz.
Absolument, derrière, c'est une chance que derrière effectivement ce mur du centre de la SNCF avec l'œuvre de Morellet, il y a la cathédrale de Metz et parfois un soleil brillant.
C'est une autre dualité.
Absolument.
Je vous remercie.
C'est moi, merci.
Vous avez donc jusqu'au 28 septembre pour profiter de cette exposition qui, art visuel ou pas, vaut le coup d'œil. C'était Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Bonne journée et à bientôt.